Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui. On va vous emmener aux quatre coins de la France, peut-être pas, mais au moins visiter deux belles régions, la Baie-de-Somme et le Lot, grâce à notre invité Cyril Ferraud, que vous allez retrouver dans quelques instants pour la carte au trésor.
Mm-hmm. Je ne bouge pas, Arnold. Hein,
ne bougez surtout pas.
Mon hélico est garé devant Radio France.
J'en étais sûr. Il vient en hélico, en warning, tout va bien. Mais
oui,
notre
mais
trésor
d'abord.
À nous, c'est Frédéric Dorel.
Bonsoir Arnold. Bonsoir Frédéric. À tous. Fabien Klein, pilier de la mouvance djihadiste en France, est mort après 4 jours de surveillance. Celui qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre a été tué par une frappe de la coalition à Baghouz, en Syrie. Son frère Jean-Michel est, lui, gravement blessé. Les EHPAD n'en peuvent plus d'attendre un an après leur grève pour demander les moyens de travailler correctement. Directeurs et salariés sont toujours mobilisés. Le sommet sur les abus sexuels dans l'Église a débuté au Vatican. La parole est aux victimes et le pape réclame des mesures concrètes et efficaces.
Le téléphone portable au volant, c'est valable aussi pour les bus.
Les conducteurs à Béziers semblent l'avoir oublié et les usagers trop souvent ont peur. Nous parlerons de cette petite fille arrivée en haut d'un télésiège entre la vie et la mort aujourd'hui en Haute-Savoie. La responsable développement durable d'Auchan sera avec nous pour parler cette fois du plastique qu'il faut réduire dans les emballages. Sa marque fait partie des 13 grandes enseignes qui viennent de passer un pacte avec le ministère de la Transition écologique. Nous sortirons le barbecue à Nîmes en prévision du week-end de pré-printemps qui nous attend. Et puis vous recevez Cyril Ferraud ce soir, Arnaud.
Oui, arrivé en hélicoptère, il vous l'a dit, hein, Cyril Ferraud. Bravo.
Non, c'est pas vrai, hein, je précise que c'est pas vrai quand même.
Et pourtant, vous en avez deux à disposition.
J'en ai quatre dans l'émission.
Quatre dans l'émission, rendez-vous compte.
Non, je t'ai plus la coupe pleine, mon
voilà.
Bon monsieur.
La carte au trésor, c'est jusqu'à 20h avec vous, Cyril Ferraud. On a un grand plaisir à vous recevoir. Mais tout de suite, voici le journal.
France Bleu Soir, Arnold Derek, Frédéric Dorel.
C'est lui qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre 2015. Fabien Klein est mort.
Le djihadiste français a été tué par une frappe de la coalition à Baghouz, le dernier bastion du groupe État islamique en Syrie. Son frère Jean-Michel Klein serait lui gravement blessé. Gérard Chemla, l'avocat des victimes du Bataclan et du Stade de France, ne regrette qu'une seule chose, il n'y aura pas de procès.
Nous sommes toujours partagés, c'est déjà un moment important. Voilà des mois, des années qu'ils étaient insaisissables et donc il est extrêmement important qu'on sache qu'ils ne vont plus sévir. En même temps, on est obligatoirement interrogatif sur le fait qu'il n'y aurait pas de procès concernant Fabien Klein et donc pas d'informations sur sa participation, notamment dans l'organisation des attentats du 13 novembre, parce que nous savons qu'ils ont eu un rôle majeur dans le fonctionnement de l'État islamique et certainement dans d'autres attentats. En tout cas, c'est un moment très très important pour les victimes.
Maître Chemla, avocat des victimes du 13 novembre 2015, après l'annonce de la mort de Fabien Klein. Toutes les infos sur Fabien Klein et son frère sont sur francebleu.fr.
Ça s'appelle avoir de la suite dans les idées. Un dealer de région parisienne se servait d'un gilet jaune pour circuler plus facilement.
Oui, il le déposait sur le tableau de bord des voitures qui servaient au trafic. Il a quand même attiré l'attention des policiers qui ont saisi 1,5 tonne de résine de cannabis.
L'impatience des EHPAD à présent, un an après la grève qui a fortement mobilisé le secteur.
Et alors que le gouvernement prépare son plan grand âge, rien n'a changé. Les 10 syndicats qui représentent les maisons de retraite ont mobilisé leurs troupes, donc aujourd'hui devant l'Élysée. Salariés et directeurs, tous réunis pour demander des mesures maintenant. Malika Belarbi pour la CGT.
Rien ne s'est passé, il y a une dégradation totale. Il n'y a aucune amélioration sur les conditions de travail des salariés, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de revalorisation des salaires. Les salariés sont exploités. Il y a tous les jours des grèves, il y a tous les jours la souffrance des salariés. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est deux aides-soignantes pour 45 résidents? Comment on peut pas être maltraitant? Parce que le gouvernement est parti sur un projet de loi qui va se statuer en 2021 pour l'amélioration des conditions de vie de nos aînés. 2021, c'est trop tard. C'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de nous, les personnes âgées. C'est aujourd'hui qu'ils sont dans leur lit. C'est ça, ils ont besoin d'être soignés. C'est aujourd'hui, c'est pas en 2021.
Le cri d'alarme de Malika Belarbi, représentante CGT dans le secteur des EHPAD. Pas de réponse pour l'instant du gouvernement.
Pendant 3 jours et demi, le Vatican se penche sur ce scandale planétaire que sont les abus sexuels commis par le clergé sur des mineurs.
Le pape François réclame des mesures concrètes et efficaces et ce sommet s'est ouvert sur les vidéos de 5 victimes venues des 5 continents. Toutes demandent d'être entendues pour que l'Église s'amende et tire les leçons de ses erreurs. Plus près de nous, le Français Olivier Savignac a été reçu hier au Saint-Siège, victime d'un prêtre à l'âge de 13 ans. Il demande lui aussi de l'écoute et des actes.
L'Église, déjà, elle doit appliquer ce qu'elle a prôné, la tolérance zéro, la transparence totale. Quand on est face au secret pontifical, à la limite diplomatique de certains prélats, notamment le nonce apostolique en France, qui vient justement de faire la une avec un scandale d'agression sexuelle, c'est des choses comme ça qu'on attend, la transparence totale, et que le Vatican s'énonce, et puis le pape s'engage concrètement dans cette transparence, d'abord et avant toute chose pour les victimes.
Olivier Savignac, fondateur de l'association Notre Parole aussi libérée.
Et puis à Béziers, les chauffeurs de bus abusent un peu trop du téléphone portable.
Et les usagers s'en plaignent. Stéphane Pocher, vous êtes allé à la gare routière place du Général de Gaulle. Les témoignages sont édifiants.
Oui, rares sont les usagers à ne pas avoir vu au moins une fois un conducteur de bus avec un téléphone au volant. Christine fait quotidiennement le trajet entre Bougeant-sur-Libron et Béziers.
C'est une pratique habituelle, on va dire. Téléphone à la main, voilà. Ils envoient des textos, plus ça va, plus je me sens en danger.
Même constat de Mireille, c'est accablant, dit-elle.
Ils marquent ne pas parler au conducteur, mais eux, ils téléphonent. Il suffit qu'ils ne voient pas une personne qui passe devant eux, ils peuvent les prendre avec.
Il y a aussi ceux qui conduisent avec les oreillettes et qui écoutent de la musique.
Ils ne sont pas sur le parcours, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une bagarre ou s'il y a quelqu'un qui se sent mal ou qui appelle de l'aide, ils n'attendent pas, évidemment.
Heureusement, aucun accident grave n'est encore arrivé. On n'en est pourtant jamais très loin, raconte Andrea.
Hier, il regardait l'écran, j'arrivais à De Gaulle. Il n'a pas vu l'enfant qui traversait, il a pilé. Bon, s'il n'aurait pas regardé son écran, il aurait vu de loin traverser.
Frédéric Lacasse, le président de l'agglomération de Béziers Méditerranée, demande au gestionnaire Vectalia d'intervenir au plus vite.
C'est des comportements qui ne sont pas acceptables. Il faut les corriger, surtout ceux-là, parce qu'ils sont dangereux et on nuit à la sécurité. Ça fait partie des fondamentaux d'un chauffeur qui se doit de respecter le code de la route et les usages pour la sécurité du public.
La direction a pris les devants. Dès mardi, elle a envoyé une note interne à l'ensemble des conducteurs en leur demandant d'avoir un comportement exemplaire.
Oui, parce que l'histoire est montée jusqu'au sous-préfet qui va donner des consignes aux forces de l'ordre. Stéphane Pocher, France Bleu Héros.
19h07, vous restez avec nous évidemment pour le journal de Frédéric Dorel. En voici la suite. Nous rejetons trop de plastique dans la nature. Pour y remédier, 13 entreprises de la grande distribution et de l'agroalimentaire s'engagent avec le gouvernement. Auchan par exemple. Nous serons avec sa responsable développement durable dans une minute. Un nouveau dossier de reprise industrielle à gérer pour Bercy Ascoval dans le Nord. Et qui vient d'apprendre que son repreneur n'avait pas l'argent pour assurer la reprise. Mais d'abord, Frédéric, cette triste nouvelle, une petite fille est entre la vie et la mort en Haute-Savoie après un accident de télésiège.
L'enfant âgé de 5 ans a fait tout le trajet, la tête coincée par le garde-corps et les adultes à côté d'elle n'ont pas bougé. Marie-Anne Lim.
Guidée par le moniteur de ski de son cours collectif, la fillette, pour pouvoir descendre plus facilement, s'était installée sur le siège extérieur de la banquette 6 places. Plusieurs adultes à ses côtés, comme le veut la réglementation des remontées mécaniques. C'est au moment où l'un de ces adultes a abaissé le garde-corps que l'enfant aurait eu la tête coincée verticalement entre le montant de la banquette et le garde-corps, rapporte le maire de Châtel, Nicolas Rubin. Les 5 à 6 minutes de trajet se sont alors écoulées sans que personne ne bouge. Ce n'est qu'à l'arrivée, les adultes étant descendus et partis, que les agents des remontées se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas, que l'enfant était inerte et ont aussitôt déclenché la chaîne du secours. Dans leur recherche pour retrouver les adultes présents sur le télésiège avec la jeune victime, comprendre et déterminer les causes de cet accident rarissime, les gendarmes de Thonon-les-Bains s'appuient sur les photos souvenirs prises systématiquement à l'arrivée de ce tout nouveau télésiège inauguré il y a un mois et demi.
Marie Ameline, France Bleu, Pays de Savoie. Les enfants sur les télésièges, c'est toujours au milieu entre les adultes.
Merci de le rappeler, Frédéric Dorel. Dans la foulée du mouvement Gilets jaunes, Emmanuel Macron déjeunait avec les présidents de département aujourd'hui.
Il en ressort de nouveaux contrats pour lutter contre la pauvreté et notamment l'accompagnement des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Un trop grand nombre deviennent SDF à 18 ans.
De nouvelles inscriptions antisémites ont été découvertes aujourd'hui.
À Blois, sur un abribus, Emmanuel Macron était cible Blé aussi. Et à Paris, quartier Plaisance, dans le 14e, une dizaine de tags ont été relevés.
On ne vous l'apprend pas, le plastique est une catastrophe pour l'environnement. D'après une association environnementale, on en rejette beaucoup trop dans la nature.
L'équivalent d'un camion poubelle chaque minute en mer. Le chiffre est même repris par le gouvernement et il pourrait doubler d'ici 2030. Le ministère de la Transition écologique vient donc de passer un pacte avec 13 entreprises de la grande distribution et de l'agroalimentaire pour freiner l'utilisation du plastique dans les emballages. Béatrice Javary, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du développement durable chez Auchan et vous avez signé ce pacte. Parmi vos pistes, il y a proposé aux consommateurs plus de plastique recyclable.
Oui, tout à fait. Nous savons que le plastique est un matériau qui est recyclable à l'infini s'il a été conçu pour cela au départ. C'est pour ça que chez Auchan, notamment pour les bouteilles en plastique, nous proposons à nos clients de les rapporter en magasin pour qu'ils aient une seconde vie et entrent dans une boucle d'économie circulaire.
Ce sont vos boîtes EcoBox. Ça fonctionne bien, ça?
Alors oui, nous avons aujourd'hui 73 EcoBox en France. 61 millions de bouteilles ont été recyclées. Nous voyons nos consommateurs avoir de plus en plus de nouveaux comportements qui les conduisent à rapporter leurs bouteilles en magasin, moyennant une récompense, mais dans une logique qui est avant tout une logique éco-citoyenne.
C'est un centime par bouteille, la récompense ?
Oui, tout à fait.
Oui, et effectivement, les bouteilles et les barquettes plastiques représentent plus de la moitié du plastique qui finit en mer. Donc ça, c'est une initiative effectivement qui va dans le bon sens. Vous en avez d'autres ?
Alors oui, tout à fait. Nous réduisons le volume de plastique de nos emballages. Et ça, c'est très important de considérer que chaque fois qu'on peut supprimer du plastique inutile et que l'on peut améliorer également sa recyclabilité, nous faisons un geste pour l'environnement. Notamment nos barquettes en pâtisserie sont désormais transparentes, ce qui garantit la recyclabilité du plastique.
Ah bon ?
Tout à fait. Les plastiques noirs sont très difficilement recyclables et c'est vrai qu'il convient d'exercer le regard du consommateur pour qu'il puisse également faire le choix du plastique qui pourra avoir une seconde vie.
Et tout ça en faisant attention à ne pas faire augmenter les prix en plus.
Tout à fait. Et je crois qu'aujourd'hui, notre défi, il est véritablement d'engager nos consommateurs vers une consommation plus responsable, mais aussi de nous engager nous-mêmes dans des démarches de progrès qui viennent bien en amont de l'acte d'achat et de consommation, puisque vous savez qu'on travaille également énormément la question de l'éco-conception avant même la mise sur le marché des produits pour pouvoir les emballer avec moins de plastique et avec du plastique qui soit plus recyclable.
C'est ça, fabriquer des emballages qui se recyclent plus facilement. Merci Béatrice Javary, directrice du développement durable chez Auchan. Bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
L'usine de Nutella de Villers-et-Cales en Normandie est à l'arrêt par précaution.
Ferrero a repéré un défaut de qualité, mais il reste du stock pour alimenter le marché. Avec 600 000 pots produits chaque jour, c'est la plus grosse usine de Nutella au monde.
Encore une reprise qui ne se passe pas comme prévu. Ascoval, dans le Nord, se demande de quoi l'avenir sera fait.
Oui, le groupe Altifort qui devait reprendre l'aciérie n'a finalement pas les fonds nécessaires. Il y a 281 salariés. Et puis dans l'autre dossier problématique du moment, la reprise du site Ford de Blanquefort en Gironde. Ford refuse la nouvelle offre de punch.
Allez, que tout ceci ne nous fasse pas oublier que le printemps est là, enfin ou presque.
Il va encore faire très beau, c'est vrai, hein, sur toute la France jusqu'à dimanche, voire même au-delà. Alors sortez les barbecues. Jade Péchira est allée faire les courses.
Avant toute chose, direction la charcuterie, évidemment.
Ça y est, les gens en ont marre du pot-au-feu, ils ont vu le soleil, ça commence à sortir les grillades.
Les conseils de Raphaël, derrière son étal.
Les saucisses, c'est ce qu'il y a de plus simple, les côtelettes aussi pour tout le monde. Et puis si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir, il faut partir sur la côte de bœuf. Toujours la sortir bien avant du frigo, au moins 2 heures. Et après, il ne faut pas hésiter à la retourner souvent. Toutes les 2 minutes, on la retourne, 3-4 fois. Il faut que le feu soit bien fort. Et un petit quart d'heure, c'est prêt. Et avant de la trancher, pareil, il faut la laisser reposer. Ça permet qu'elle s'attendrisse encore un petit peu. Une fois que c'est fini, juste avant de servir, vous savez, fleur de sel, avec un bon kilo de frites, se faire plaisir.
Pour Vincent, ce sera du classique.
Ah bah là, on est sur un échauffement de début de saison. 6 chipots et 6 merguez, petite salade, histoire de se donner bonne conscience, un beau soleil et 2-3 bières.
À consommer avec modération, bien sûr, mais pas facile de bouder ce petit cadeau de la nature.
Le retour des beaux jours, c'est sûr que ça fait plaisir, pouvoir ressortir le barbecue, remettre les tongs, aller à la plage.
On entendrait presque les cigales.
Presque, elles nous manquent. Revenez vite.
Et à la vôtre, avec modération, encore une fois, Jade Péchira, France Bleu, Gare Lozère.
Allez, pour terminer votre journal, Frédéric Dorel, on connaît désormais le nom des trois quarts des artistes qui vont chanter au Francofolies cet été.
Une liste de 22 nouveaux est venue s'ajouter ce matin aux têtes d'affiche comme Patrick Bruel, que l'on avait déjà. Il y a par exemple Alain Chamfort, La Grande Sophie et Benabar. Le début de la suite, le titre qui donne son nom au dernier album de Benabar.
Ouais, un album France Bleu qu'on est ravis d'accompagner Benabar. Hein. Il fera partie de la troupe des Enfoirés.
Aussi.
Le concert a lieu le 8 mars, diffusé sur TF1.
Et France Bleu.
Et France Bleu, s'il vous plaît.
Évidemment.
Semaine spéciale autour de cet événement majeur. On vous prépare une série d'émissions sur les Enfoirés. Mm-hmm. Laissez-moi vous dire, vous allez vous régaler.
Donc, c'est début mars. Hein,
voilà,
c'est ça.
Début mars. Frédéric Dorel, bonsoir.
Bonne Merci. Soirée, oui.
Bon week-end météo. Également. Vous avez vu, Cyril Ferraud, elle s'en va.
Bonne
elle
émission avec
vous
Cyril.
Vous voulez pas
Ferraud.
Rester avec nous?
Non, elle veut pas.
Vous laissez un hélicoptère. Alors.
Allez, je vous en laisse un sur les quatre. Mais vous me le ramenez dans le même état que vous l'avez pris. Hein.
D'accord.
Voilà. Attention.
Hein. Vous l'avez deviné, on ne va pas parler de la série Télé Magnum, encore que, hein, y a des hélicoptères
oui, c'est
également.
Vrai. C'est vrai.
Ouais. On va parler de la carte au trésor qui revient pour deux émissions inédites juste après ce petit point météo.